Joseph Malingue, Augustin ou le Maître est là. Chapitre 8, Sacrificium Vespertinum, troisième partie, Jacob et l'ange. La grosse infirmière blonde introduisit l'argilier vers 2 heures du soir. Augustin dut déblayer les très nouveaux, la soutane, le chapeau de curé, le ruban des décorations militaires, pour retrouver l'essentiel du visage d'autrefois, sous un gris de cheveux trop récent pour n'être pas transparent, l'ancienne nuance blonde de lin s'apercevait encore. L'ascétisme du sourire, la méditation continue du regard rentré, s'accommodaient des petites rides, du teint brouillé couleur de son, de la calvitie naissante qui formait tonsure, beaucoup mieux qu'autrefois de très plus jeune. Ce visage avait enfin conquis sa forme. C'est bien lui, dit Augustin d'un ton de familiarité gai. Tout cependant n'était pas joie ni fraîcheur d'un passé retrouvé. Bien d'autres choses s'y fondaient. Le demi-remords de relations détendues, de correspondances dont la réponse était restée en route, une chaleur d'amitié lentement éteinte, et plus encore, un sentiment dont Augustin n'eût pu dire s'il était plaisir, envie, amertume et admiration mêlée, si singulier que cela fût. L'argilien approchait son visage si près qu'Augustin comprit subitement qu'il allait l'embrasser. L'émotion le gêna au lieu de l'aider. Il hésita pour les premiers mots qui furent plaisantins ou banalement lyriques, ou non moins banalement extraits des guides bleus. « Cela me paraît drôle de t'appeler mon révérend père. As-tu aisément trouvé le sanatorium ? Tu es venu par Sion, Martigny, Aigle ? As-tu remarqué, au sortir du funiculaire, tous ces cubes blancs de sanatorium, non pas verticaux, mais penchés en arrière, pour un baiser d'extase au soleil ? Simple effet d'optique, c'est le voyage en funiculaire qui les renverse. » Non, l'extase. Puis, le sujet changea. Oui, on le soigne beaucoup, le jeune malade à pas lents. Il montrait la masse des couvertures que la boule d'eau chaude soulevait à ses pieds. J'ai une occupation passionnante. J'explore mon état de santé, thermomètre matin et soir, et dans l'intervalle d'autres normes par mois constituées, fatigue de mes jarrets, raccourcissement des distances que je parcourais, trajectoire changée, d'abord dehors, puis à la chambre, suppression de la descente de la salle à manger, variation de mon appétit, son maximum, son minimum, ses changements de signes, variation dans mes vues générales des choses. Augustin observait en même temps l'effet de ses confidences sur le tendre et attentif regard de son ami. Mais celui-ci ne marquait ni pitié ni incertitude, s'étant défait de ses inutiles accessoires, la pitié, l'incertitude. « Ma sœur Christine t'a raconté » finit-il par dire d'un ton de fatigue et de sérieux, moins fatigue physique que lassitude de cette mise en scène. Installé sur sa commode chaise longue face au balcon de cure, sur les jambes de douce couverture velue, il savourait la détente de son pauvre corps. Laisse-moi te voir un peu, voyons. Sors de là, ne te mets pas contre le jour, fit-il du fond des coussins et des laines. Il promenait ses yeux sur la soutane de jésuite, dont les bras laissaient passer sans manchette les ingénieuses mains du savant expérimental. Quel largilier lui était le plus présent et le plus cher? Celui de la cour Granta, au jour de Bernier Félix et du premier Herzog? Augustin s'en rappelait de rares paroles volontiers cassantes, des sourires d'une bonté nullement ingénue. Il avait été long à goûter ce taupin transfuge et prestigieux, passionnément aimé par la suite. À l'école, sa vie intérieure s'était faite plus riche et plus séparée, malgré la simplicité avec laquelle il permettait qu'on y accédât. Peut-être à cause de cette simplicité. D'ailleurs, l'écart intellectuel grandissait entre les deux amis. l'immense ésotérisme des sciences contemporaines étendait entre eux un espace dont Augustin se rendait compte qu'il ne le franchirait pas. Jamais plus de profondeur et de respect ne s'était mêlé à une amitié. La grande crise de sa foi l'avait attiédi, non de son côté à lui, l'argilier, mais parce qu'Augustin enveloppa dans la même rancune les disciplines religieuses et ceux qu'il avait aimés avec elles. Il n'eût pu dire pourquoi il se rappelait un détail qui l'avait amusé autrefois. Le jeune savant détestait qu'on lui fît perdre son temps. Son aménité avait trouvé un moyen d'exprimer cette haine, une façon particulière d'arrêter, quand il ne pouvait le faire autrement, les conversations oiseuses. Ses yeux gris, méditatifs et froids, cessant de s'intéresser à ce que lui disait l'interlocuteur, le prenait lui-même, les détails de son corps et de son visage, comme objet d'une exploration excédée. De cet air de hauteur involontaire, sur défense, Jean-Paul Denisot, le renanien de l'école, en savait quelque chose qui ne restait sans doute, et il ne semblait même pas qu'elle lui fût de nouveau possible. Augustin mit ses deux mains à plat sur sa poitrine. « Je suis atteint des deux côtés. Ce qui m'interdit les traitements mettant un poumon au repos momentané. On a aussi cessé les exhortations. Du moins, j'ai cru le voir. Mon moral essentiel, ma collaboration indispensable, on ne me guérirait pas sans moi. Bref, tous les coups de fouet. D'ailleurs, mes hauts, mes bas, ma collaboration, mon moral. » Et il observait de nouveau quel effet faisaient sur l'argilier ces paroles. L'argilier avait déjà vu le médecin. Son pronostic sonnait encore dans ses oreilles. « Que voulez-vous ? La première condition est d'avoir envie de vivre. » Il laissa reposer son ami en un silence qui dura quelques minutes. « Ma sœur ne t'a rien dit ?» demanda Augustin, faisant, sans la soulever, pivoter sa tête sur l'oreiller. « Rien que de venir me convertir ? C'est déjà beaucoup. » « Elle m'a dit que tu avais de grandes peines et que ma visite te ferait du bien. » Il aima cette discrétion dans la pitié. Il se sentait faible d'émotions faciles, agacé plutôt qu'irritable, présentant ce qu'il appelait lui-même ce psychisme de la maladie qu'il avait montré devant l'abbé Bourret, coupé d'intervalles inertes, peuplé d'une sorte d'insensibilité intermittente, stoïque et funèbre. Un assez grand renouvellement de son âme, peu bruyant mais profond, lui venait cependant de la présence de son ami. « Je crois que je préférerais qu'elle t'ait dit « Tu ne comprendras pas. Il va falloir que je t'explique. D'ailleurs, les réserves, les secrets, c'est comme toute appropriation, arrive un moment où ça n'a plus de sens. Ils font bien qu'on parte dépouillé et nu. » L'argilier, dans ses phrases hachées de sens obscur, de valeur sentimentale assez claire, vit ce qu'il fallait y voir, les approches et les hésitations des grandes secousses émotives. Mais Augustin ne sentait qu'une chose, il allait connaître de nouveau, comme déjà dans les confidences entrecoupées fournies à Christine, le bonheur de retrouver, tièdes et neufs, de beaux filets de sang. Il allait revoir Anne exactement comme en ses songes, disparue de sa vie, devenue parcelle de l'imaginaire, dans la fraîche inatteignabilité de l'impossible. Cependant, il commençait mal, par pudeur de savoir où prendre. Ce n'est pas qu'à proprement parler je souffre, j'ai des moments de fureur, d'autres d'insensibilité, plus souvent ces derniers. Sa vieille défiance contre tout verbalisme émotif lui fit dire « Je m'excuse de tant de romanesque et je fais bien des manières pour raconter des choses finies. » Le récit commença, plein d'interruptions, de faiblesses, de caprices, de débits. Tout s'avouait ensemble, tout ruisselait, les aveux confus brisés de pudeur, les reprises, les retours sur soi-même, les arrêts subis, suivis d'analyses pour expliquer son cas comme celui de tout autre, feindre qu'il y fût moins engagé. Il suspendait, reprenait, fléchissait dans son obscure histoire, laissant jaillir ses confidences en saccades d'artères coupées où marquerait le rythme des battements de cœur. « Repose-toi, recueille-toi, » fit calmement l'argilier. « Je me domine si peu maintenant, » disait le malheureux. En même temps, il sentit qu'il n'aimait pas ce verbe « se recueillir » d'aspect trop religieux. Opportunément, la grosse infirmière blonde entra, portant une bouillotte chaude, la lui mit au pied, refit sa couverture, reprit la bouillotte froide, ouvrit largement la fenêtre, la referma à demi, dosant la teneur de lumière. Des tintements de grelots montaient de la rue où donnait la galerie de cure. Des rires, des phrases allemandes, ou cet anglais banal qui court dans tous les lieux de tourisme et plaît comme un autre grelot. Schlittenfahrt, fit-il à l'infirmière. Elle dut défaire son dosage de lumière, se pencher sur la galerie de cure, regarder. Elle revint, rose, large, épanouie, expliquant en allemand qu'en effet c'était un départ en traîneau pour les pistes. Lui aussi, sourit-elle, lorsqu'il serait mieux, il irait. Elle aime qu'on lui parle allemand, fit Augustin, et vous en récompense par ses pronostics. Après sa sortie, il put recommencer avec plus de froideur et de méthode. Il faut que je t'explique mieux, que je te dise qui. Ni nom, ni prénom, il n'avait rien dit. Tu es devant des ombres. C'était plus simple à raconter qu'il n'eût supposé. Le grand nom de M. Henri Desgrais n'était ignoré de personne, encore moins des savants qui connaissaient les immensités économiques où se ramifient les techniques de sciences pures. L'argilier savait là-dessus tout ce qu'il fallait savoir. De plus, si Mgr Herzog s'était naturellement tu sur toutes les intimités où Augustin se trouvait mêlé, il était bien naturel aussi qu'il fît appel à l'argilier pour l'organisation scientifique des écoles normales secondaires libres, annexe des universités catholiques. Le nom de Mademoiselle de Préfaille fut prononcé comme il devait l'être. « Alors, tu vois de qui il s'agit, et c'est bien. » Ses confidences ainsi aérées et toute son âme ouverte, ce fut désormais très facile. Un flot large coula, d'un cœur repris par tous les enivrements du passé. J'ai cru, mon Dieu, l'aimer presque depuis toute mon enfance, bien que les émotions dont elle était le centre ne s'appliquassent pas initialement à elle. Il commença d'expliquer, s'arrêta. Non, c'est inutile. Peu importe ce transfert, il me suffit de dire que, dès longtemps avant sa venue, toute mon adolescence était pleine d'elle et toute ma jeunesse l'avait désirée. C'est là, si tu veux, mes premiers foyers. Dans les jours du début, comme il ne me semblait pas qu'aucun espoir fût possible, ni que rien lui permît de me remarquer jamais, j'ai commencé de beaucoup souffrir. Ce m'est une grande peine de parler. Non dans le sens de douleur, mais plutôt d'émotion, de fatigue émotive, d'une sorte de joie imbécile. Tu comprends bien, une peine douce, d'une brûlante douceur stupide. Il ferma les yeux comme s'il la goûtait. L'argilier fit signe qu'il comprenait. Ses diversions hachées, ce commentaire auquel son ami s'attardait autour du plus déchirant et douloureux bonheur, était moins une confidence nouvelle qu'un relâchement dans ses confidences. Moins intime, il constituait une effraction moins sensible, une tension moindre de son cœur que le récit direct. Je l'ai vu ainsi, d'une telle manière, dans telle robe. J'ai tel jour senti son bras sur le mien. Elle a eu tel geste, dit tel mot. C'était un palier, c'était un repos. D'ailleurs, Augustin reprit, dès que son calme fut revenu au niveau nécessaire, « Ces temps de froideur et de souffrance, je les aime bien. Et aussi les jours de sa toute petite adolescence. Ils ne m'ont pas déçu, ne m'ont pas trompé, ne m'ont rien promis. Glacialement étrangère, presque autant que maintenant. Peu importe, c'est ainsi que je l'aimais. J'ai eu la joie de souffrir tout mon sou devant elle. Les temps d'après ne comptent plus. Quelque chose d'eux semblait bien compter encore, cependant, et bouillonner dans les aveux. Priée chez eux à plusieurs reprises, je l'ai revue, longtemps revue. Du reste, les plus violents moments furent eus. Il s'écarta des lieux enflammés où le sol brûlait encore et brûlerait jusqu'à la toute prochaine fin. Il frôla la nuit lunaire, le bouleversement des préaveux, tout ce fugitif ineffable. Il s'énervait cependant et sifflait ses consonnes. Moi aussi je l'ai lu, le cantique des cantiques, à genoux, la face tournée vers là-bas. L'argilier vit lentement virer vers lui un visage blanchâtre et grimaçant, semblant compter le nombre de secondes après lequel il aurait le droit de ne plus se retenir, d'éclater en sanglots. « Ces souvenirs t'appartiennent, » fit-il avec le même calme. Augustin s'arrêta, prit le temps de s'apaiser, ce qui fut long. Les mains se détendirent, la respiration se refit à peu près paisible. D'autres sujets voisins se présentèrent qu'il prit provisoirement. L'émotion, de toi à moi, ça m'est égal, mon vieux. Ne te rappelles-tu pas? Et comme l'argilier cherchait, je me souviens mieux que toi. Lorsque tu m'as vu frotter mes yeux rouges à 4 heures du matin en turne de seconde année, sur des extraits du brave Holtzmann. Est-ce moi qui ai dit cela? C'est moi. Mais parce que tu l'avais dit le premier, dans d'autres circonstances, quand j'ai lu sur ton carnet, as-tu oublié? Chaud encore de ses confidences, il prenait plaisir à gêner l'argilier comme une sorte de rançon. Et moi qui me serais fait volontiers jésuite pour continuer de vivre avec toi. Je me souviens, fit l'argilier avec un sourire tout simple. Augustin retomba dans l'appui de ses oreillers. Ces souvenirs m'appartiennent? Ah, mon ami, je ne sais même plus à quoi je pense quand je pense à eux. Il fit le geste de palper de la fumée. Reprenant d'un ton de récit, sans souci apparent que d'être clair, le soir même, en rentrant dans la voiture qui nous ramenait, Monseigneur Herzog et moi, j'appris de lui que ce que j'appellerais ma candidature pouvait être agréé. On désirait m'étudier davantage. Je n'avais pas caché toutes les composantes de mes incertitudes, ce mélange d'agnosticisme, d'inquiétude métaphysique, ce goût de vie morale et l'attrait d'un Dieu inscrutable. On souhaitait néanmoins me connaître mieux. Qu'est-ce que je lui aurais dit? Fit-il rejetant les couvertures et s'appuyant sur le coude. Oui, quoi? Quelque chose comme ça? Que la critique de la critique a beau effondrer la critique, elle ne vous rend pas à l'état initial? Que je restais éloigné du catholicisme? Non par conviction inverse, mais par habitude de m'en passer, par goût de parler positif, comme un enfant enlevé au sien trop jeune. Ma comparaison n'est pas là très exacte. Ne les déteste pas, ne les rejette pas, les oublie simplement. J'aurais terminé par l'aveu, mais tout cela était avant. Il commença deux ou trois coups d'un triste et âcre rire en se rejetant sur ses oreillers. Je n'en parle pas assez doucement, avec la gratitude qu'il faut. Le grelot des traîneaux s'était tu. Le cou et la tête abandonnés en arrière dans un traversin mou qui épousait sa nuque, Augustin semblait écouter une extraordinaire absence de vie qui pénétrait le sanatorium et la rue. le relief des rares bruits s'enchâssait dans une immense ouate inerte. Quand prit fin le mutisme nécessaire, l'argilier le vit tourner vers lui son sourire livide. « C'est là que je me relie à toi. » Le jésuite chercha à comprendre, fit le geste de toute ignorance, élevait les sourcils sur un visage étonné. « Mais si, tu m'as dit, Dieu ne laisse périr aucune âme de bonne volonté, il enverrait plutôt un ange. Tu te rappelles ?» L'argilier ne se rappelait pas exactement, mais telle était bien la pensée de saint Thomas. « Oui, enfin, dit Augustin avec un certain ressentiment mélancolique, eh bien, j'ai senti la présence de l'ange. Je n'ai pas eu un amour de brute, tout lyrisme et musique. Ce me fut une nuit d'enivrement religieux, une nuit pleine de Dieu, une nuit de résurrection, mais Pâques, le sommet des béatitudes terrestres, plus un grand feu jeté par les autres. Je sentais une sorte d'épouvante que Dieu daigna s'occuper de moi individuellement, une fulguration à moi destinée, portant mon nom et mon adresse, traversant tous les déterminismes, perçait mon cœur au point juste. Le grand texte classique, « Telle goutte de sang pour toi », je le transformais pour toi, telle étincelle du buisson ardent. Même les mots qu'il appelait elle seule rendaient le son de Dieu. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée, d'un seul de tes regards, d'une seule des perles de ton collier. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Naturellement, j'écartais les plus violents, les moins prononçables du cantique. Sauf à l'aube, un bout de sommeil noir, cet enivrement d'humilité triomphale et foudroyée dura toute la nuit. Ah, j'oublie les roses, un parfum intermittent venu de mes roses. L'argilier vit ses mains sortir de la couverture, se rejoindre et se renverser en tordant leurs doigts. Il entendit une toux quinteuse et secouante, quatre ou cinq petits coups au plus, puis d'une voix sourde, « Donne-moi de l'eau froide. » Le verre d'eau se trouvait sur la table de nuit avec la fleur d'oranger et le sucre. L'argilier fit le mélange et le lui porta. « Merci. J'aurais préféré de l'eau pure, mais ça ne fait rien. Pleurer me brûle un peu. Rire aussi. » Il but lentement, avec des souffles entre les gorgées. Du sucre non fondu resta au fond du verre. Sa voix revint à une calme lassitude. Christine t'a dit tout le reste. Dans la même semaine, son petit garçon et ma mère sont morts entre nos bras. En rentrant du cimetière, j'ai craché du sang, incident commun à toute vie. Il faut qu'il nous frappe sur l'épaule pour qu'on ose y voir un destin singulier, un manque de simplicité, une sorte d'exagération dans l'attitude du monde envers nous. Restait une partie des aveux non dites, un débris particulier surnageant sur ce désastre, suivant la loi des grandes douleurs. Il le prit par le bout le plus lointain, le plus funèbre et le plus doux. Dans cette boue glacée du double enterrement, je la revois encore, ma presque fiancée. On nous avait dit nous attendre, Christine et moi. J'ai vu leur geste d'attente, debout contre leur voiture. J'ai tous ces détails nets pour jamais, mon jamais à moi, bien entendu, un jamais de 3 mois. Notre accablement n'a pas eu l'audace d'aller se faire consoler. Des gens guérissent de ce que j'ai. Pouvais-je proposer à mademoiselle de Préfailles 3 ans d'attente? Évidemment non, n'est-ce pas? Évidemment, fit l'argilier. Évidemment. Sa décision avait été beaucoup plus dure et immédiate, sans cette fade hésitation d'espérance qui lui prêtait aujourd'hui. Il le savait bien. Il était plus faible, voilà tout, et il remodelait un peu ses souvenirs, qu'étant un pauvre conseil rétrospectif. Comme le silence, cette fois, durait plus que d'habitude, l'argilier, levant sur lui les yeux, vit qu'il pleurait sans secousse ni effort, sans rien cette fois qui pût le brûler. Rien non plus pour se cacher, ni mouchoir, ni détournement de tête, rien du mécanisme social des pleurs. Elle coulait tranquillement de ses yeux fermés sur ses joues non rasées, de chaque côté des oreilles. Il se mit à tâter autour de ses poches sans s'essuyer le visage. « Je voudrais te montrer leurs lettres affreuses. » « Eh non, c'est dans un autre veston. » « Eh non, c'est dans un portefeuille qui se trouve dans l'armoire. D'ailleurs, peu importe. » Il tremblait d'anxiété fébrile et d'asthénie. « J'ai cassé tout lien. » Elles ont dû voir là de l'inexplicable, une sorte d'insulte. Peu importe. Peu importe, ce qui sauve tout, c'est la mort. Elle console de la vie. Je compte les jours et je les barre, comme à la caserne. Peut-être je m'en irai plus tôt, je déserterai. Christine restera seule. C'est elle qui a deviné que j'aimerais te voir. Moi, je ne savais pas, c'est tout. Je t'ai pris beaucoup de temps. Mon temps ? Fit l'argilier, s'arrachant lentement à l'oppression de ce cauchemar. J'ai demandé la permission d'être auprès de toi tout le temps que je te serai nécessaire. Les plus grands dons scientifiques, des perspectives d'institut et de prix Nobel, et j'ai demandé la permission, comme un petit écolier. Une vigoureuse saveur de bouffonnerie arracha au malade deux ou trois secousses d'un rire désolé. Mais l'argilier ne s'en inquiéta pas. Les approches de la mort, fit-il des deux mains méditativement jointes, supportant un visage aux yeux baissés. On a tort d'attribuer à cette proximité une importance unique. Elle ne change pas nos devoirs. Nous faut-il aimer Dieu davantage parce que nous allons mourir, ou détester plus fortement nos fautes? La loi de toute vie se fait-elle plus contraignante précisément à la fin de la vie? Et si nous venions à récupérer un certain nombre d'années, nous faudrait-il moins aimer Dieu? C'est une grande bénédiction que d'être prévenu de sa mort. Tous nos motifs se simplifient, subissent une hiérarchie que nous ne discutons plus. Tous les motifs en suspension dans la vie se précipitent, sauf un. Nul doute que ce ne soit très commode et parfait si leur élimination et la nôtre étaient contemporaines. Mais c'est le temps entre les deux, écoute. L'argilier écoutait en effet cet incessant mélange de sarcasme et de misère. Mais le petit rire forcé ramena la toux et la brûlure. Le malade de nouveau posa ses paumes à plat sur la poitrine, tendit une main, reçut le verre d'eau froide et le but lentement. « Écoute, reprit Augustin, quand fut reconquis l'équilibre respiratoire, je voudrais te faire comprendre. » Il eut l'air de compter la distance, de prendre son élan avant de sauter dans un sujet qu'il avait ruminé tant de fois depuis 2 mois. J'ai eu un vertige physique qui m'a fait peur. C'était un des premiers soirs après ma lettre et leur réponse. Cette sensation m'a pris au lit. J'ai bien vu que j'effrayais Christine. Je me suis cru à l'intérieur d'une sphère tournante. Qu'est-ce qui tournait ? Ma chambre, mon rideau de fenêtre, le plafond. Impossible de le dire. Je les voyais stables et tournants à la fois, et cette contradiction me donnait la nausée. Leurs mouvements giratoires, arrêtés par mes rectifications, recommençaient quand elles fléchissaient. C'est sur leur modèle, à ces objets tournants, que j'ai senti vaciller des choses plus personnelles. Ma conscience d'être au lit, la sensation de mes draps et celle de mon crâne, puis mes habitudes d'esprit les plus permanentes. Je ne pourrais préciser lesquelles. Peut-être l'idée que je me trouvais dans un monde stable, parmi les choses classées et intelligibles, et aussi mon pouvoir de faire un raisonnement, de prévoir. Tout, sans que je puisse dire ce qu'était ce tout, semblait quitter la surface plate où cela reposait et la quitter en rond. J'ai effrayé Christine qui posait son lait froid sur la table de nuit. Je disais, ce n'est pas le plafond qui tourne, mais le pôle. Voulant dire, mon pôle mental. Elle est revenue à plusieurs reprises, doucement, croyant que je ne l'entendais ni ne la voyais. Je crains que tu ne te fatigues, dit l'argilier. Cesse de parler, repose-toi. Augustin fit non de la tête. Il y a une technique de la vie réduite, une technique de la toux, du crachat, de l'effort verbal. C'est la première chose qu'on apprend ici. D'ailleurs, t'y voir m'apporte une petite exaltation, tu le devines bien. Le vertige naît de ma faiblesse et de mon estomac vide. Je ne m'en serais pas préoccupé. Mais le point de départ n'était pas physique. Quoique ce fût sur des sensations visuelles qu'il m'ait été perceptible. J'extériorisais un vertige moral. Je m'en rendais compte. L'essentiel était une souffrance morale véritablement nauséeuse. Je vis là, j'en pris mesure, le bouleversement de cette partie de mon moi qu'étaient mes motifs et mes valeurs morales. Tous mes crochets étaient cassés, toutes les prises de mon âme, santé, bonheur, carrière, tout. Que veux-tu ? Les unes ni les autres ne se prêtent aux simplifications de la mort. En termes de psychologie pédante, j'ai fait, comme disent les psychiatres, un déséquilibre du sentiment du moi de forme très légère. Ça a été décrit. Un Beitrag quelconque dans une archive allemande. Je la retrouverai si je voulais. Je filais vers un inconnu que je ne sentais pas être Dieu. Différent aussi de l'anéantissement pur et simple, comme ma nausée morale avait enfanté une rotation de lit et de plafond. Ce départ vers un monde inconnu procréa lui aussi quelque chose de matériel, le glissement sur les parois lisses d'une immense cuve, et aussi un nombre limité et précis de minutes, ruisselant à petit bruit d'eau sous mon lit. Tout cela ne m'a pas effrayé, mais m'a montré l'obligation de conquérir un nouveau pôle pour ce monde où je ne me retrouvais plus. Il en faut un, si peu conduire. Jusqu'à ma mort, j'ai besoin d'un centre, comme j'ai besoin de manger. La plus violente faim fut à la date de mon vertige, mais il y en a eu d'autres, avant et depuis. On heurta à la porte, un heurt cotonneux comme d'une main gantée. Il s'ouvrit sans qu'Augustin eût besoin de parler. La grosse infirmière blonde entra, portant sur un plateau le goûter de 4 heures et sous l'autre bras une bouillotte chaude. Elle avait dû heurter la porte du genou. « Déjà ?» fit Augustin. Des biscottes enduites de beurre et de confiture, des toasts, 2 tasses de cacao sur une table passée au ripolin blanc, frôlèrent la chaise longue. Puis l'infirmière changea la bouillotte comme la première fois, fit à Augustin un large sourire d'allemande, eut envie de parler, fut sans doute intimidé par le visiteur et partit. Je n'avais jamais pensé que mes motifs dussent finir avant moi, que nous ne mourions pas ensemble. Trouve-moi un motif qui transcende mes dernières semaines ou mes derniers mois. L'unité de temps ne compte pas. À peine posé, le cacao et le pain grillé s'étaient mis à donner ce petit fumet de réveil qui traverse l'odeur des lits. Je voudrais, fit Augustin, que tu m'écartes un peu ça. Quand ça fut écarté, l'argilier le vit hausser lentement par-dessus la chaise longue, 2 maigres jambes chaussées de pantoufles se lever, assurer sa main au dossier et recommencer dans la blanche chambre ripollinée un de ces voyages entre fenêtres et lits dont il devait peupler tant bien que mal les après-midi désertes. « Prends une de ces tasses, dit-il en passant, le chocolat suisse est bon. » « Je crains encore que tu ne te fatigues, l'avertissait l'argilier, comme le pilonnement sourd et glissé des pantoufles allait et venait. Se retrouvant près du lit, il s'y étendit sans répondre, la tête sur le coude et le coude sur l'oreiller, ce qui obligea l'argilier à installer sa chaise auprès de lui sous le feu de ses yeux ardents, restés impérieux jusque dans leur détresse, à bien peu de distance des osseuses pommettes roses fièvres. « Tu n'as pas de rabat ? » dit-il, indiquant la soutane. « Ah oui, tout ça c'est romain. » Puis retour au timbre grave. « J'ai peur de t'exposer des désirs impossibles. La paix de tes dogmes sans tes dogmes, ta stabilité sans tes étés. Que veux-tu, mon ami ? Il faut voir les choses comme elles sont, et la mort n'y change rien. » « Dis-moi, dit l'argilier, quand tu as souhaité me voir, je serais d'ailleurs venu de toute manière, qu'as-tu le plus souhaité ? As-tu voulu l'ami et toléré le prêtre, ou désiré l'un et l'autre à la fois, et seulement l'un plus que l'autre ? Ne cherche pas trop superficiellement, laisse parler tes sincérités profondes. » Il s'entretenait d'une voix assez sourde, presque tout bas, se trouvant si près l'un de l'autre que le souffle d'Augustin tombait sur les mains de l'argilier, posé sur le rebord du lit. Il en sentait le coup de chaleur périodique. « Si j'ai voulu un ami, pas X, ni Y, ni Z, pas l'incompréhension des gens à bonheur terrestre. » Si j'ai voulu un prêtre, pas le chanoine B, ni ample puits, ni des professionnels du sermon. Avec une brusque violence devant le fantôme de ses fiançailles, pas Herzog. Prêtre et ami ensemble? Ami, pour que je puisse devant lui m'agacer librement. Prêtre, ça m'est égal. Voilà. L'argilier voyait aller, venir, geste chasseur de mouches, une maigre main blanchâtre aux ongles bombés. Il comprit que son ami commençait une de ces impatiences de malade qu'il ne lui connaissait pas. Et s'il n'a à me proposer qu'une nouvelle application de ses dogmes, aussi fatigué que les autres, je veux pouvoir lui dire « Il vaut mieux que tu t'en ailles, vois-tu » Il ajouta, tremblant et la mâchoire dure, « Qu'il ne profite pas de mon désarroi, qu'il ne me jette pas à la tête ses hypothèses catholiques, qu'il ne prenne pas sa revanche sur moi avec les cartes truquées de la mort. Pas ça, pas ça !» Il ouvrit encore et ferma deux ou trois fois la main droite, fléchit tout à coup, laissa retomber sa tête dans l'oreiller, continua de siffler « Pas ça !» du fond de sa lassitude et pianota une sorte de mesure sur le drap pendant quelques secondes. La figure grisonnante au teint brouillé, couleur de son, restait inaffectée, immobile et douce sous l'orage. Augustin sentit un commencement de remords. « Cette sortie te montre ce que je suis devenu. Tu ne m'en veux pas, dit. Je prends ton âme telle que Dieu me la présente. Une réponse de révérend père. Je veux celle de l'ami. T'es bébête, dit l'argilier. Augustin eut une sorte de vague détente des traits, intermédiaire entre le sourire, l'indifférence et l'ennui. Oh non, finit-il par dire, en une conversation à la fois décousue et logique, on ne m'a pas facilement. Moi-même, je ne m'ais pas facilement. Dans ce débat entre le Dieu catholique et moi, j'ai toujours fait en sens arrière à peu près le même nombre de pas qu'en avant. 3 mois de la vie des miens m'ont porté assez près de ces sanctuaires. La grande houle de mon bonheur m'avait jeté sur leur seuil. La douleur m'a repoussé aux zones glacées. Non, il n'est pas très facile de savoir ce qu'on veut dire quand on affirme « croire en Dieu. Il saisit les barreaux métalliques de son lit, sentit leur froid, se haussa sur leur point d'appui. Ce lit me lasse, j'y transpire, j'y étouffe, tantôt chaud, tantôt froid, comme mes pensées. Il se leva péniblement, fantôme aux couvertures, recommença de promener dans la chambre son incessant caprice vite lassé. L'argilier se demandait s'il était ainsi tous les jours, ou seulement ce jour-là, par énervement et à cause de lui. Il le rejoignit près de la galerie de cure, face à la dérive des nuages qu'ils regardèrent ensemble. « J'aurais voulu que tu voies les cimes. » Ce qui s'apercevait, dans la capricieuse disposition des neiges, c'était un paysage splendide et théâtral, l'énorme vallée du Rhône, les débouchés perpendiculaires bleuâtres et devinés, la Grionne, l'Avançon, la Grande Eau, très bas dans les brumes au début du soir. Des ouates confuses obstruaient tous ces creux, et les cimes aussi restaient obstinément cachées, le plafond des nuages décapitant les pentes blanches. Mais, aux moyennes hauteurs neigeuses ou violettes, dans le désordre romantique des montagnes, des villages s'apercevaient bâtis à la mode du pays, sur des sursauts perdus le long des pentes pleins de sensibilité suisse. Une sorte de liberté pastorale, casanière et chantante, rude et douce, blottie contre les monts. « Il y a trop de neige cette année, » fit-il agacé. « des brumes, rien que des brumes, on dirait mon cœur. » « Oui, j'aurais voulu que tu voies ces cimes. Enfin, des cimes d'un autre ordre ne te sont pas refusées. Moi, la douleur m'a rejeté au mécanisme impassible du monde. D'ailleurs, je ne te dis cela qu'avec les catégories les plus basses de ma pensée et pour que tu vois tout. » Comment saisir cette pauvre âme contradictoire et ravagée? Parmi ces caprices de sensibilité, ces sautes de sujet, cette suite continue d'excitation et de fatigue, d'argumentation et d'affaissement, de refus et de désir. L'argilier avait-il été trop dur en lui parlant d'emblée de la mort? Son ami n'était cependant pas de ceux à qui l'on déguise ni édulcore, ni qu'on convainc par atténuation, ni pour qui l'on grisaille les vigoureux noirs funèbres. « La douleur, » dit le jeune religieux d'une voix de gorge douce et sourde. « Ah, c'est le grand mot et le grand scandale !» Revenu s'étendre, les pieds sur la bouillotte, Augustin répondit par un geste très ironique, court mais fort vaste, embrassant la pièce, le bâtiment, la ville et l'espace. L'argilier continuait dans la plus profonde immobilité méditative, penchant sur la chaise longue un dos courbé de vieil homme, baissant les paupières sur un regard intérieur dont il eût été à peu près indifférent qu'il vît les couleurs du monde ou qu'il fût aveugle. Aucun saint ne s'en est inquiété ni laissé distraire. Ils vivent d'elle, ils la sollicitent. Quelle autre mesure mesurerait leur amour? Atteindre Dieu par la voie des joies? On s'y heurte à trop de concurrence. Par celle des douleurs, on l'y trouve pure et seule. Augustin se remémora sa vieille formule « Douleur, matière première de la sainteté ». « Mon âme n'est pas de cette sorte, » fit sa voix excédée, « et c'est de moi qu'il s'agit. » Ce n'est ni de toi, ni d'eux, ni d'aucun en particulier. Il s'agit de chercher, sur les données les plus claires, les traces de Dieu dans l'âme humaine. Si tu n'es pas un saint, tu sais reconnaître une vie de saint quand elle t'est présentée. Tu n'es pas renfermé dans ton habitat propre. Tous les novices ont l'œil sur l'effigie des saints, tous les saints sur l'effigie du Christ. Augustin dit qu'il n'ignorait pas ce curieux attrait de la vie des saints, la plus haute poésie de la terre. La douleur révèle sa vraie nature au réactif de la sainteté. Pour Faber, qui s'y connaît, Certains moments privilégiés suppriment presque la foi. Il y a d'identiques transformations des douleurs. J'ai peut-être vu le début d'une, rêva Augustin qui pensait à Christine. Même à notre niveau d'homme faible, elles commencent à prendre un sens, redeviennent une partie de notre moi dominé et compris, et non une prolifération folle de l'âme. Tous les mécanismes impassibles du monde, rien n'est plus facile que d'en croire Dieu absent. Ils ont cependant été supportés par lui, en fait, à une certaine heure du temps humain, historiquement, devant des yeux de gens qui ont vu, sous des poings qui ont frappé et des bouches qui ont craché. Dieu s'est infligé, dans leur inadaptation et leurs injustices, tous les déterminismes de la terre, la passion, la souffrance, la mort, avant de nous les imposer. Les souples mains dociles de savants expérimentales commencèrent de numéroter quelque chose dans l'air. Il a pris le corps humain, la physiologie humaine, l'économique de la pauvreté, les modes de vie des basses classes, l'ânesse pour luxe et la poussière des voyages à pied, le type social semi-nomade, pêcheur et berger, les plats de poisson et les pains d'orge, le parasitisme de l'apostolat. Il parlait avec la plus extrême simplicité et, sauf l'élévation numératrice des doigts sans la moindre attention de geste, rien qui passât le timbre d'une sourde exhortation de confessionnal. Augustin remarquait cependant un certain goût d'image concrète et familière qu'il n'avait pas jadis. Technique des instructions et sermons, ou méthode des méditations selon saint Ignace? Je ne puis pas décider. J'ai entendu, continuait l'argilier, ce serment populaire dans une église d'Italie. On le coudoyait sans le connaître. Qui sait là-bas? Ces choses, comment déjà? Jésus, le fils de l'artisan à domicile, vous savez bien, le type qui prêche entre les barques et les jardins. Il fait encore son bout d'effet sur les étrangers, mais nous autres, on le connaît. Où a-t-il passé aujourd'hui? Quelque part au bord du lac, il raconte ses petites histoires. Il y a toujours du monde pour les écouter. Il pousse les porcs à l'eau. Faudrait pas qu'il fasse ça au mien. C'est bien, en effet, sous ce vêtement humain de déterminisme et de misère, scandale de l'expérience commune, qu'il propose au saint, sur deux mains d'hommes percés, deux morceaux d'un réel effrayant, le sens de Dieu et celui de la douleur. Combien d'entre eux sont morts de son terrible amour? Augustin, pour mieux voir l'argilier, tourna lentement la tête dans son oreiller, ce qui fit un léger bruit de plumes molles perdues parmi ses souffles. Il a pris, continua le jeune prêtre, les catégories sociales de son pays et de son temps, les obligations rituelles, les codes pénaux, la forme des peines capitales, les images et récits d'un Israélite de Palestine, l'exposition de ses idées et de ses actes par des procédés d'innocents. Il a bronché. Il est tombé comme un autre. La pesanteur joue sur lui. Pour lui aussi, les pierres sont dures et les madriers lourds. Il a sué en travaillant. Il a sué du sang d'homme à Gethsémani, émis des exsudats humains sous le coup de lance du calvaire. Le microscope ne s'y tromperait pas. Il a souffert, avec des nerfs d'homme, tous les détails d'une mort d'homme, la soif des hémorragies, l'immobilité terrible de la croix. Ses poumons ont jeté leur dernier soupir, comme pour tous les morts. Il a souffert avec son âme d'homme, l'amertume des œuvres humaines brisées, l'accablement des grandes défaites, les rires des gens, l'ébranlement de tête, ce ridicule sur ses dernières heures, tout ce qu'il goûtait déjà dans la lie du calice, à un jet de pierre des dormeurs. Sa mère lui pleurait sur les pieds. Il a subi le délaissement de son père, l'abandon de Dieu, la sécheresse et le désert des déréliction absolues, cette croix sur la croix, cette mort dans la mort. C'est tout cela, accepter la terre. Il s'est fait passible, mortel, très lentement connu. Jamais je ne contemplerai assez l'abîme de la sainte humanité de mon Dieu. Bien des moments, depuis 3 mois, avaient paru à Augustin uniques et irrétrouvables, vraiment singuliers, spéciaux, dans l'éphémère. Mais aucun n'eut le caractère étrange de cette méditation dans un sanatorium où s'entrelaçaient si curieusement le déterminisme expérimental et le donné divin des causes secondes et de l'éternité. Un autre trait vint s'ajouter à la riche personnalité de la minute. Aucune n'y manqua des irisations du précaire. Tout ce qui composait cette gaieté des maisons de cure, à substance superficielle et si mince, pellicule de neige, de flirt, de mort et de musique, les traîneaux à grelots rentraient des pistes. On joua du piano dans un rez-de-chaussée voisin. Des rires, l'éclat des voix, toutes les apparences heureuses montaient jusqu'aux étages. Les notes rondes et claires ruisselèrent sur le lit blanc de neige, et, dans leur intervalle, revenait cette purification de tout contexte sonore, cet isolement des sons, sur un fond mat de silence absolu. Augustin perdit pendant sa courte distraction plusieurs phrases de l'argilier. Lorsqu'il le rejoignit, celui-ci parlait de la douleur subie par Dieu démonstrateur, imposée par Dieu législateur. Du point de vue théorique, la coexistence de la douleur et de la paternité de Dieu, comme l'origine de l'énergie, comme la pénétration de la matière dans la conscience, et leur existence même à l'une et à l'autre, constituait l'une des données primitives de l'univers, pas plus obscure, ni pas moins. Mais pour des âmes pénétrées du Christ Dieu, cette coexistence sort des préoccupations pratiques autant que des atteintes. C'est un problème mort. Toute émotion et respect, Augustin écoutait le jeune religieux, l'homme rasé, gris blond, à demi chauve, de taille médiocre et de nuque maigre, ce grand scientifique, ce mystique, peut-être ce saint, cet homme de la plus haute double vie, son ami. J'ai, disait l'argilier, entendu d'un ex-athée cette formule singulière. Sans le Christ, j'aurai la haine de Dieu. Qu'il me garde de ce blasphème dont je devine toutefois les racines. Loin que le Christ me soit inintelligible, s'il est Dieu, c'est Dieu qui m'est étrange s'il n'est le Christ. Lui aussi, Augustin, jadis, avait senti son cœur sollicité par la sainte humanité de Jésus. Cette rencontre s'expliquait comme toutes les rencontres. Le sujet flottait dans l'air religieux contemporain. Il avait sur les âmes la prise la plus naturelle et la plus forte. Des fiches lui étaient consacrées parmi celles qu'il avait relues dans la fameuse nuit. Dans le cristal adamantin des dogmes, c'était la facette qui frappait l'âme moderne, scientifique et mystique ensemble. La nature humaine de Jésus, subissant les déterminismes que sa nature divine avait elle-même institués, se soumettait au mécanisme social des expositions historiques lacunaires. Curieux pont suspendu entre la douleur et la question biblique, les entrelacs des lois positives le supportaient comme des filins. « Tu n'as jamais pressenti que tu te ferais jésuite ?» demanda Augustin, comme le silence vibrait encore. « Autrefois, dans nos années d'école. » « Non, » fit l'argilier. « Figure-toi que je t'ai imaginé fondant un ordre. Où l'ai-je conjecturé d'après une conversation que nous tenions ensemble ?» Avait-il vu réellement toutes ces images, ou en inventait-il? Un contrôleur d'omnibus et un receveur, écoutant leur dialogue religieux, sa gêne à lui, la totale indifférence de l'argilier, parlant devant eux à voix haute, un omnibus démarrant, les bouts d'un foulard voltigeant sur le cou de l'argilier qui courait. J'y ai pensé. Une connaissance plus exacte de moi-même m'a montré que ce projet dépassait mes forces. Sans donner l'impression de désirer rien sceller, il parlait visiblement de lui-même dans le moins de mots possible. Comment as-tu su qu'il dépassait tes forces? Très simplement, l'abbé Herzog me connaissait par ses propres observations et par les aveux et comptes rendus que je n'avais qu'à lui présenter docilement. Augustin vit les deux mains ouvertes qu'il étendait. Il t'a imposé ta décision? Oui. Je connais le cliché, ta liberté se parfait et se meurt à la fois. Si on cherche l'abandon à Dieu, autant commencer dès la décision même. Je vois, dit Augustin, battant du bout des doigts le bras aplati de la chaise longue, comme il avait auparavant battu son drap de lit. Nous constituions dans ce lycée universitaire un joli noyau mystique. C'est fort rare. Mais ça arrive. Avec une discrétion tenace, il t'a imposé d'être jésuite? Non. Un directeur n'est pas un supérieur d'ordre. Il se contente d'apporter les secours d'une bonne tête, de deux yeux désintéressés et d'un cœur qui aime Dieu. Que comportaient ces aveux et comptes rendus qui fut spécialement pro-jésuite? Continua le policier. Quelle part de ta sensibilité s'accordait à leurs règles? Le Manrez? Le Perinde ac cadaver? Y a-t-il eu clarté intuitive, véritable appel nominal, simple convergence de réflexion? Quoi et où? Il tourmentait l'argilier, comme il avait tourmenté jadis Christine adolescente. Mais l'argilier s'y prêta avec son habituel mépris des réserves, et une parfaite simplicité d'aveu. Le moyen a été plus simple. D'une part, les conditions de ma plus grande utilisation, de l'autre, une totale absence d'attrait sensible, aucun appât, aucune pente, aucun motif humain. Alors je ne comprends plus. Alors il a bien fallu comprendre que c'était ce dépouillement d'attrait sensible que Dieu voulait de moi. Augustin se tut un long moment. Pourquoi désormais demander les conditions de temps, de lieu, la date exacte? Qu'importaient les anecdotes? N'avait-il pas le cœur des confidences, l'aveu central? Il lui semblait lire une seconde fois dans le carnet égaré. Moi aussi, fit-il par dire, d'une voix d'hésitation, de regret et de mélancolie, j'ai peut-être, jadis, été infidèle à quelque formidable désir. Ces confessions, coupées de silence, ce profond calme, cette lumière du soir dont on ne savait si elle était verte ou rose, tout semblait chargé de provisoire, de bientôt fini, de déclin accepté et de vague aurore. Mais à ce moment, le corridor se mit à vibrer sous des pas qu'accompagnaient des sifflets et des rires. Les gens heureux qui venaient parurent vouloir s'arrêter juste à la porte d'Augustin, puis ils reprirent leur promenade. C'est le moment de leur thé. Dans les débuts, ils entraient souvent, moins maintenant. Sur la petite table ripollinée, les deux tasses s'étaient depuis longtemps refroidies. La pile de toast restait entière et dédaignée. Mange-en un ou deux, qu'on ait l'air d'y avoir touché. Sans quoi nous aurions des plaintes en allemand et l'énoncé d'une compassion. Il fut redevancé par l'infirmière blonde. « Nicht mehr gegessen » fit-elle d'un petit ton triste mal accordé à sa grosseur. La présence de l'argilier l'intimida encore, coupa les ailes à sa compassion. Elle se borna à lever ce doigt dont on menace les petits-enfants. Le fin de foin de ses cheveux d'allemande débordait sous le bandeau de son front, Elle remporta le plateau dans sa main droite renversée, tandis qu'à gauche s'accentuait compensateur l'évasement de sa hanche. « À quelque profondeur que me touchent tes appels, » disait Augustin d'une voix qui idéalisait sa faiblesse, « leur sérénité n'est pas la seule qui s'offre à moi. Un appel identique part de bien d'autres pôles de la pensée. Le christianisme est puissance libératrice parmi d'autres. Ce qui me le murmure à l'oreille, c'est ma longue habitude de ranger les thèses catholiques côte à côte avec les concurrentes sous les mêmes mesures. Peut-être le néant a sa sérénité. Peut-être la mort la plus sereine est la plus menaçante pour l'immortalité. Peut-être que je n'ai pas su le voir le soir de mon vertige et qu'il ne faut pas chercher de fond aux cuves où l'on tombe. Peut-être ne sont-elles que parois lisses et glissements éternels. Bien entendu, d'une éternité mesurée par le nombre des minutes qui ruisselaient sous ton lit. Bien entendu et heureusement. Quittant ses coussins, Augustin se retourna vers l'argilier d'un demi-tour pénible et lui prit les deux mains, tandis que dans son dos un oreiller s'effondrait. « Vois-tu, il n'est aucune des sollicitations de Dieu qui n'ait déclenché en moi sa contrepartie de thèse adverse, automatiquement, comme une deuxième demi-onde. Un cœur indécis, avec un esprit éclairé, cela existe. Les vieilles incroyances ont leur inertie, que, selon les incrédules, les croyances seraient seules à connaître. Une croyance inentretenue s'écroule. Une croyance somnolente demeure. « Je veux bien, » fit le malade avec une grimace lassée. « En tout cas, la chiquenaude suprême me manque. Des marais où je me meurs, au haut lieu où tu m'appelles, je ne m'élancerai pas, faute d'elle. Je ne connais même pas cette espèce de repos intellectuel qu'est l'acceptation de l'incertitude dans les choses douteuses par leur nature vers lesquelles tu veux m'entraîner. J'ai l'incertitude de mon incertitude. » Il parlait sans entrain, ni ardeur, ni sentiment de la nouveauté de quoi que ce fût. L'argilier s'aperçut que les deux mains qui tenaient les siennes pesaient. Augustin se levait encore. Il semblait chercher à ranger sa couverture, à gonfler ses coussins. Puis ses pieds rejoignirent le sol. Peut-être il plantait là toute discussion, en ayant pour le moment assez. Il s'approcha de la galerie de cure. « Il n'y a plus de nuages, » fit-il. Leur départ découvrait un ciel mauve et vert citron aux puretés extrêmes. Un filet de rose cernait le contour d'une immense merveille rugueuse, dépolie, mate et d'un bleu d'eau sale, vaguement translucide comme une verrerie d'art. La dent du midi, d'où pendent des glaciers. « Je vois, » murmura l'argilier. Parmi les hautes dents de scie, entre les deux branches du V formé par une échancrure, reposait très nette et minuscule une sorte de tache de peinture d'un blanc absolu. « Qu'est-ce donc ? » demanda l'argilier. « Tu l'as vu ? Je voulais justement te le laisser découvrir. C'est lui. Lui ? Le Mont Blanc, » fit Augustin, une main accrochée à la crémone et l'autre en arche de pont sur la vitre. La fenêtre lui ayant enfin donné tout ce qu'il attendait d'elle, il revint sur la chaise longue. L'argilier compta que c'était la quatrième fois qu'il se déplaçait ainsi. « Quand j'ai pu sortir, après la première semaine de lit qu'ils m'ont imposée, nous avons pris une voiture, Christine et moi. À cette date, j'allais mieux que maintenant. Nous nous sommes fait conduire bien au-dessus de l'Aisine par un chemin forestier déjà enfoui sous les premières neiges qui s'amorce au grand hôtel. Il mène au chalet et à la tour d'Aï à travers des sapinières. En hiver, on ne le trace en coupant la neige que jusqu'à une étable au tiers de la route. à mesure que nous montions, à tous les endroits où la vue crevait la barrière des sapins. Ce point blanc que tu vois fixé et collé au fond des dentelures grossissait, se compliquait, débordait des autres cimes, remplissait les cantons les plus inhumains de l'espace. Nous assistions, stupéfaits, à la naissance d'un monde inconnu. C'était le Mont Blanc, vu par sa face nord-est, par Argentière, le glacier du géant et toutes les aiguilles, de l'aiguille verte au Mont Maudit. Bien entendu, on ne peut les apercevoir, mais seulement de ternes creux bleus, de hautes vallées ombrées, une matière hirsute et supraterrestre libérée du poids, de la solidité, de l'utilisation de toutes les matérialités du monde. Je voudrais que tu ailles le voir par un beau soir découvert. L'argilier dit qu'il irait. Il faisait doux. Nous sommes restés devant lui longtemps. Un troupeau de vaches sortait de l'étable où il rentrait, piétinant dans la neige. J'étais bien, enveloppé de laine, une bouillotte aux pieds et les mains dans mes moufles. Autour de nous, des morceaux de l'Alpe pastorale, des beuglements et bousculades des vaches, des sons fêlés de clarines très différentes de celles du Cantal, des odeurs de bestiaux les plus douces, les plus pacifiques après celles des neiges. Notre cœur n'était pas là, tout entier pris par la grande cime pure. Il poursuivait, les yeux plissés, son souvenir. Nous échangions des symbolismes que tu devines. Dans l'état où nous nous trouvions tous les deux, il suffisait de bien peu de choses pour nous déprendre des griffes de la terre. Deux doigts de blanc fixe et la suprême altitude des Alpes. Il la montrait du menton dans sa réduction minuscule. C'était la première fois que je voyais Christine sortir de son calme affreux, s'intéresser à quelque chose depuis la mort de son enfant. Elle n'arrachait pas ses yeux de la cime souveraine. Elle l'affirmait clémente, purificatrice, simplifiante, pleine de Dieu. Je la disais sans âme, invinciblement lointaine et dédaigneuse, au-dessus de toute vie, sans passage, sans chemin, d'une interminable stupidité. Je l'interpellais, la personnifiais. Tu suggères des solutions de sérénité sans dire leur nom. Si tu le sais, dis-le. C'était il y a un mois, ma première promenade et la seule. L'homme qui nous conduisait se retourna. Maintenant, nous ne pouvons aller plus avant, faudrait des traîneaux. La route où nous avions passé n'était qu'une tranchée rayée d'ornières terreuses, creusée entre deux falaises d'épaisse neige mate. Au-delà, toute tranchée s'arrêtait, les deux falaises se rejoignaient. Plus rien qu'un champ de neige. Nous avions vu tout ce que nous voulions voir. L'homme retourna sa voiture vers Leysin. C'est ainsi, conclut Augustin, que je contredisais Christine, par taquinerie peut-être, car je n'étais pas bien sûr que mes pensées, au fond, ne fussent pas les siennes, ni ne le suis encore. Dans la chambre, la nuit commençait de brunir la lumière. « As-tu, demanda l'argilier, assez présente à ton souvenir la vie du curé d'Ars ?»« Je crois, dit Augustin, après un silence de quelques secondes, pendant laquelle il s'étonna du manque de transition. Tu aurais pu, pèlerin d'Ars, venir dans sa petite église, peut-être vers 1 heure du matin. C'est l'heure où il commençait d'accorder ses consultations morales, ses entretiens particuliers, qu'on venait lui demander de tous les coins de France. J'aurais pu. J'y aurais du moins accompagné Christine. Le curé d'Ars t'aurait dit, « Mon ami, commencez par vous agenouiller ici et confessez-vous. » Il y a 3 petites différences, très accessoires. Les pêcheurs s'en allaient vers lui, et c'est moi qui me suis déplacé. Ensuite, c'étaient des pêcheurs chargés de fautes graves, et j'oserais dire que très probablement, tu ne l'es pas. Enfin, c'était un saint. Il vit les yeux d'Augustin vriller sur lui. Mais comme c'est Jésus-Christ lui-même qui t'absoudra, l'âme du curé d'Ars et la mienne sont, en ce qui regarde la sainteté, à l'égale distance de cet infini. Je te dis donc, ainsi que l'eût fait le saint, reste étendu comme tu es, mais recueille-toi. Nulle oreille ne peut nous surprendre, je vais t'entendre en confession. Augustin commença de chercher dans les paroles de l'argilier un autre sens que le sens naturel, évidemment impossible, mais tout autre sens n'était pas moins impossible, et d'ailleurs sans relation quelconque avec leur conversation. L'argilier, assis, gardait les mains jointes, les lèvres serrées, les yeux clos. Il attendait. Augustin sentit bouillonner un immense trouble, une tempête de colère et de pitié, et presque le recommencement de son ancien vertige. Il se rappelait des prêtres assis sur une chaise exactement comme celui-ci, en des occasions où les confessions se passaient hors des confessionnaux, par exemple dans le petit réduit à odeur de cuisine où se tenait autrefois l'aumônier du lycée. L'argilier était si près qu'il voyait les marques rousses de sa figure. « Je ne me trompe pas ?» demanda-t-il avec un tremblement bégayé. « Tu veux que, sans la foi au sacrement, c'est trop peu dire, sans une foi quelconque sentie par moi, et même sans sérieux ?» Sans la foi au sacrement, mais non sans foi quelconque, puisque tu désires Dieu avec une partie de ton cœur, quoique non pas avec ton cœur tout entier. Je te dis ce que le curé d'Ars disait à ceux qui conduisaient vers lui d'obscurs désirs de paix. Mon ami, mettez-vous ici et confessez-vous. L'argilier venait de parler avec la plus grave douceur et une sorte de tendre autorité qu'Augustin ne lui avait jamais connue. Alors, la houle changea de nature, devint épouvante. Augustin s'en aperçut, comprit en même temps qu'il ne résistait pas comme il aurait cru, ce qui augmenta son trouble. Il criait d'une pauvre voix basse, « Je ne suis pas préparé, voyons. Je n'ai pas le cœur au point. J'ai besoin de voir clair et tout de même un peu de pitié. » Ton profond désir, que ta pensée déforme, par fausse pudeur, par manque de sincérité simple dans l'aveu de tes poussées intérieures, par crainte d'un réel trop beau, eh bien, je ne dépasse rien en t'affirmant que Dieu l'agrée comme préparation. » Augustin resta suffoqué de silence, trop écrasé pour répondre, et le grand tacticien qui le violentait s'emparait de ses silences comme d'acquiescement. Tout refus s'appuyait sur une résistance déjà fléchissante et que des complicités minaient au fond de lui. D'autres forces en lui, malgré lui, trahissaient. Un murmure spontané, presque audible, chuchotait « Hors des rives, en pleine eau, hors des rives, en pleine eau. » Par répétition continue et tenace, diminuant chaque fois la distance entre lui et l'invraisemblable. En même temps, un autre éclairage, une sorte de jour intérieur, des rayons partis d'un foyer nouveau, regroupait ses points de vue et même toute son âme. La stupeur d'Augustin venait de cet envahissement lumineux. Il n'était pas purement dogmatique ni doctrinal, il était autre chose, une approche très longtemps terrifiante, agréée enfin. Elle quittait tout voile. On en parlait ouvertement. Elle n'effrayait plus. On voyait grandir et se préciser la couleur orange et noire qu'elle envoyait au-devant d'elle, par-delà les porches de la mort. Pour l'aveu de tes péchés, je t'aiderai. Une confession générale, portant sur une longue période de vie, ne comporte par la nature de la mémoire qu'une précision assez lointaine. Mais de cela je suis juge, et cet aveu fait, je t'interdirai même en pensée d'y revenir. Tes deux devoirs, d'être docile envers Dieu et d'assurer la paix de ton cœur, se confondront. Pour ta contrition, le fait même que tu m'écoutes avec bonne volonté en est une suffisante preuve. C'est plus qu'un sentiment que tu offres à Dieu, c'est tout toi-même, dans un seul acte, ta pauvre âme tout entière, douloureuse et tourmentée, affamée de repos. Ainsi se continuait ce mélange de calcul, d'audace, de confiance et de joie, comme le plus habile et le plus libre des champs. L'argilier vit Augustin rejeter lentement sa couverture, découvrir ses jambes, sa bouillotte, se redresser. Il l'observait de l'autre côté de la chaise longue. Aux premiers efforts de l'agenouillement, il se leva en hâte, courut à lui, mit sous ses genoux des coussins. Augustin disait « Laisse, laisse !» L'argilier releva et étendit sur son dos une des couvertures douces et chaudes, tombée devant la chaise longue. « Ferme la porte à clé, » entendit-il parmi de petits sanglots mêlés de toux et de mouchures. Mais il dut pencher l'oreille sur lui. Augustin parlait bas, pleurait d'émotion, d'agacement, de désarroi, de dépit et de joie, cœur contraint et consentant. « Je ne sais même pas si je dois m'accuser de ma longue incrédulité. Je n'en sais rien. » L'argilier dut se tenir tout près de lui, deviner ses paroles et ses sentiments, l'envelopper d'une caresse morale protectrice, perspicace et robuste. Bien sûr, mon cher ami, le jeu de l'intelligence n'enferme en soi ni faute ni mérite, il est pure technicité. La faute ne fut pas de conclure aux lumières de tes prémices, mais de n'avoir pas éclairé ailleurs. Compare. En un danger mortel au corps, les hommes tranchent tout lien, bouleversent vie, carrière, viennent ici 2, 3 ans. Tout, disent-ils, tout sauf la mort. On ne conserve pas Dieu à un prix moindre. L'équivalent en une grave crise d'âme, aidait de tout jeter dans la bataille, quitter l'école, s'il eût fallu, épuiser auprès des grands spécialistes catholiques leur technique et leur foi. On ne met pas Dieu au second rang. On n'est pas calculateur des moindres frais, ni opportuniste, ni léger quand il s'agit de Dieu. Quitter l'école? Celui qui lui parlait, ne l'avait-il pas fait? Ainsi, Augustin s'entendit-il dire au fond de lui-même. Après quoi tout devint secondaire. Non seulement le dépit, le désarroi initial, l'énervement et le trouble qui ne persistaient plus qu'en souvenirs vagues comme des brumes témoins, mais aussi cet acquiescement. Ne l'avait-il pas fait? Et même la suite des aveux, la partie technique de la confession, tout était secondaire, remplissage, manière de combler un discret, miséricordieux et écrasant silence. Une présence le dominait, différente de toute réalité terrestre, reine de l'être, donnée dans le temps, transcendant tous les temps, à laquelle il confiait à la fois sa pauvre âme infiniment lasse et les morceaux rongés qui restaient de sa vie. « Tort fait au prochain ?» demandait l'argilier. Augustin fit « non » de la tête, sans cesser de porter attention à ses réponses et de subir cette lumière. Luxure, impureté ? Augustin prit le temps de reconnaître et d'explorer cette sorte d'honorabilité austère, marque de son exceptionnelle vie, cette rigidité orgueilleuse, survivance de son adolescence et de sa première jeunesse, qui avait traversé ces longues années d'absence et digne adoration. Chasteté de vie, fit-il tout bas, moindre chasteté de cœur. Du reste, tout allait très vite. L'argilier posait les questions essentielles, les grandes ouvertures générales sur cette bonne volonté. Le pénitent était faible, il ne fallait pas l'occuper longtemps. Empêchés capitaux, ceux-ci sans nul doute qu'ils voyaient clairement dans cette limpide lumière inexorable, une sûreté de soi omniprésente, étayante, hautaine, tranquille, qu'ils n'avaient entrepris de tempérer que depuis peu d'années. Toute pénétrée d'intelligence et orgueilleuse de sa modestie même, une conscience pleine et dure de sa valeur et de ses réalisations terrestres. Le souvenir de ses conversations avec l'abbé Bourré le suivit ici. La cursive et dédaigneuse pitié avec laquelle il lui jetait des remarques qui eussent pu être bienfaisantes, qui peut-être l'auraient été. Incontestablement, l'incroyance l'avait durci. Il n'avait commencé de céder, de sentir l'autre ordre et supérieur que devant la profonde humilité des deux femmes auprès desquelles parfois il venait vivre. Comme l'aveu se terminait, on frappa à la porte essayant de l'ouvrir. L'argilier dut se lever, parler à travers la porte, demander qu'on attendît. Revenu, il n'ajouta que quelques mots. « Je vais te donner une très courte pénitence, un seul pas d'air et un acte de charité, dit très lentement dans ton lit, en exercice destiné à te faire sentir la présence de Dieu. Ces choses si simples, elles se voient comme la lumière du jour. » Dès la fin de l'aveu, la présence qui l'opprimait augmenta sa douceur violente. Les mots latins de l'absolvo se heurtèrent comme des balles. Agenouillé, il se prosterna en pensée, tomba à terre, fit un cercle par terre, sa tête touchant ses genoux, écrasée d'un anéantissement sans nom. Il était le grain de sable des textes bibliques, un grain de sable conscient qui eut devant lui tout le rivage, toute la mer, et par-delà la planète, et par-delà encore l'énormité démente de l'espace, et dans le suprême au-delà, le roi de tous les absolus, ou selon la formule qu'il aimait, celui qui s'est fait Dieu. Il put encore murmurer « Preuve expérimentale, expérimentale. » Et aussi, moi qui demandais un centre pour ma pauvre vie. Perdu dans cette puissante douceur, il cessa bientôt de se demander quoi que ce fût. Il sentit que l'argilier le prenait sous les bras. Enveloppé de ses couvertures, il sourit et claqua des dents. « Il faut vous mettre au lit, monsieur, » dit l'infirmière que l'argilier fit entrer. « Vous dînerez couché. » L'argilier et elle l'aidèrent à se déshabiller. Ils passèrent le vêtement de nuit sur le dos voûté et le chapelet des vertèbres. Dans le lit, les frissons augmentèrent quelque temps, puis se calmèrent. Quand ils furent de nouveau seuls, l'argilier se mit à genoux devant son malade et l'embrassa pour la seconde fois. « Tu communieras demain ?» L'ouvrier de la 11e heure ? Demanda Augustin d'un pauvre sourire. Puis il regarda partir la petite taille et la nuque creuse de l'ami qui était venu. La lumière éteinte, la solitude retrouvée, revinrent les grandes nappes de la lumière intérieure. Il s'arrêtait à cette pensée de la 11e heure. Il s'énumérait les inquiétudes qu'elle supprimait, le lent effort ultérieur, le patient travail de refonte de soi, la lutte de toutes les heures contre les tentations, les reculs, les dégoûts, la dure conquête de l'humilité, tout ce qu'on appelle la persévérance des conversions, lui était rendu facile. Il présenterait à Dieu ses mains vides, simplement chargé de son cœur transformé. « Je saute tout, se disait-il, une fuite vers Dieu par les raccourcis. J'imite, en plus mal, le bébé mort. » De son lit, il aurait pu, s'il s'était redressé, voir un vaste morceau du paysage nocturne. 8 jours plus tôt, il l'eût fait. Ce qui lui vint à l'esprit fut ce grand texte de saint Luc. « Reste avec nous, Seigneur, parce qu'il se fait tard. » Très loin, visible dans sa rêverie comme un rat de terre, parmi les lacis des choses antérieures, 20 ans de vie intellectuelle et toute la minutie de ses réflexions sur des ombres, il ne lui était pas difficile de retrouver, caché ainsi qu'en un coffret de bois précieux laissé par un mort, tout ce qui restait d'inapaisé dans le violent roman de son pauvre cœur. Mais il fallait évidemment avoir quelque chose à offrir à celui qui restait, parce qu'il se faisait tard. Donne-moi tout. S'il donnait tout, c'était avec une joie sanglotante d'avoir effectivement tout à donner. La sienne ne serait pas une acceptation inerte de la mort. Même à la 11e heure, on travaille encore, mais les mêmes grâces abrègent à la fois les vies et les passions terrestres. Commençant de dire l'acte de charité, il prononça à débit lent « Parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. » Comme le lui avait prescrit l'argilier, il se laissait pénétrer par la présence de Dieu cette chose si simple.